Journal présenté par Julie Pacaud. Bonsoir Julie.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous. Une journée de mobilisation massive le 18 septembre. Les organisations syndicales s'accordent sur une date commune pour exiger un autre budget, tout en adoptant des stratégies différentes quant à la mobilisation citoyenne prévue 8 jours plus tôt. Un budget et un vote de confiance demandé par François Bayrou qui remobilise les socialistes rassemblés à Blois pour leurs universités d'été. L'offensive militaire promise par l'armée israélienne à Gaza qui se précise, les trêves humanitaires quotidiennes prennent fin aujourd'hui dans la ville, alors que les Palestiniens à bout de force ne peuvent plus fuir. Paris et Berlin font front. À Toulon, Emmanuel Macron et Friedrich Merz promettent des pressions supplémentaires contre la Russie. Enfin, le dossier de ce journal de 18h est consacré à un homme d'affaires à l'image de patron bienfaiteur, Xavier Niel, dont le parcours est marqué par plusieurs zones d'ombre. Le 18, donc, plutôt que le 10 septembre, réunis en intersyndicale, l'ensemble des organisations syndicales appellent à une mobilisation massive le 18 septembre pour exiger un budget de justice sociale et fiscale. Et ce, même si le gouvernement est renversé. Bonsoir Camille Magnard.
Bonsoir Julie.
Des syndicats plus divisés quant à la mobilisation du 10, bloquons tout lancé sur les réseaux sociaux.
Oui, il y a d'abord ceux qui ont très vite pris leur distance, la CFTC, la CFE-CGC, la CFDT aussi, pour qui tout bloquait. Ça ne fait pas partie de leur méthode. Crainte de récupération politique aussi chez Force Ouvrière. Même la CGT a un temps critiqué un appel du 10 septembre jugé nébuleux, mais sous la pression de sa base, depuis mercredi, la Confédération menée par Sophie Binet appelle à participer au mouvement du 10. Pour elle, la date de mobilisation intersyndicale du 18 septembre est donc complémentaire.
Le 10 septembre, c'est une initiative citoyenne et donc évidemment que la CGT a décidé d'y prendre sa part en construisant la grève dans les entreprises. Mais pour l'intersyndicale aujourd'hui, le sujet, c'était de construire une grande journée de grève et de manifestation pour reprendre la main, pour dire que les calculs politiciens et les passages en force, ça suffit. Voilà notre message.
Et puis même chez les syndicats sceptiques sur le mouvement du 10, il y a l'idée qu'il ne faut pas décourager celles et ceux qui veulent exprimer leur colère face aux proposition budgétaire de François Bayrou. Tout est lié pour Muriel Guibert, la co-déléguée générale de l'Union syndicale solidaire, solidaire qui soutient le mouvement du 10 et qui, comme Force ouvrière, pèse déjà pour que les grèves soient reconductibles au-delà du 18.
Toute cette séquence-là, elle va s'examiner à partir du 10 septembre. Et le 10 septembre, c'est juste après peut-être le renversement d'un gouvernement. Donc effectivement, pour nous, cette séquence, elle est assez rapide. Mais en tout cas, on s'inscrira dans des suites parce qu'effectivement, il faut peser pour gagner en fait cette fois-ci.
Et gagner pour les organisations syndicales, c'est arriver à peser vraiment sur les choix budgétaires qui seront faits, quel que soit finalement le gouvernement qui sera aux manettes après le 8 septembre.
Camille Magnard, alors face à ces menaces de blocage syndical, politique, Emmanuel Macron appelle les forces politiques à trouver des chemins d'accord sur le budget et prévient, il entend exercer jusqu'à son terme son mandat présidentiel. Le chef de l'État qui réitère cet après-midi son soutien à son Premier ministre, son défi n'est pas insurmontable, dit-il. François Bayrou, désireux, lui, de défendre jusqu'au bout son projet de budget auprès des Français, qui s'invite donc une nouvelle fois sur les plateaux de télévision. Le chef du gouvernement donnera ainsi dimanche soir une nouvelle interview depuis Matignon aux 4 chaînes d'information en continu, LCI, BFM, CNews ou encore France Info, avant donc de recevoir la semaine prochaine les chefs de parti. Le Premier ministre se disant prêt à ouvrir toutes les négociations nécessaires. Alors si les insoumis et les écologistes ont déjà dit non à cette main tendue, estimant qu'il n'y a plus rien à attendre de ces discussions. Le Rassemblement national a accepté l'invitation, tout comme le Parti socialiste, pour répéter que ses députés ne voteront pas la confiance au gouvernement le 8 septembre et proposer un autre chemin. Le Parti socialiste qui fait en ce moment sa rentrée à Blois, avant de dévoiler ses contre-propositions budgétaires concrètes demain. Olivier Faure prend la parole dès ce soir devant les militants. L'objectif est de proposer une alternative avec un gouvernement de gauche minoritaire, mais pour cela, il faut embarquer les partenaires de gauche rassemblés cet après-midi pour un meeting commun. Écologistes, communistes, ex-insoumis ou encore Génération. À Blois, en tout cas, on veut croire qu'un gouvernement de gauche aurait sa chance. Adrien Toffoli.
L'heure n'est pas à alimenter la machine à division, s'agace à son arrivée à Blois la patronne des écologistes, Marine Tondelier.
Si quelqu'un, que ce soit les Insoumis ou le Parti Socialiste, a un argument à me donner pour me dire que le risque de victoire des fascistes en France est moins élevé aujourd'hui qu'il y a un an, qu'il me le donne. Ils n'en ont aucun.
Elle appelle tout le monde à faire preuve de responsabilité.
Si nous ne voulons pas des fascistes à Matignon ou à l'Élysée, si nous voulons proposer une alternative autre que la leur aux macronistes, nous n'avons pas le choix. Donc on doit montrer une gauche et une écologie responsables, qui sont crédibles comme alternative. C'est notre travail.
Ne pas se mettre des bâtons dans les roues entre forces de gauche qui ont pourtant partagé un même programme, et ce, même si les hostilités entre socialistes et insoumis semblent creuser le fossé chaque jour.
Il n'y a pas de gauche irréconciliable.
Diana Badiop, députée socialiste des Yvelines, pour qui la capacité à faire des compromis avec les députés du camp présidentiel est le véritable enjeu.
À l'Assemblée nationale, à 90%, nous votons les 193 députés du NFP ensemble. Donc il n'y aura pas de sujet avec les députés de la France insoumise sur un programme de gauche. Ce qu'il faudra faire, c'est effectivement partir de ce programme de gauche pour pouvoir aller chercher des compromis, des majorités avec le socle commun.
Et cette capacité à trouver des compromis va se vérifier très vite dans les prochaines semaines pour le chef de file de Place Publique, Raphaël Glucksmann.
Là, l'enjeu, c'est le budget. Est-ce qu'on est capable de s'accorder sur un budget ou est-ce que les positions sont tellement éloignées les unes des autres et les forces politiques incapables de se mettre d'accord que dans ce cas-là, de facto, il y aura nécessairement à un moment une dissolution.
Alors un gouvernement minoritaire de gauche serait-il capable de l'éviter ? J'ai un optimisme raisonnable, souffle un député socialiste dans un sourire gêné.
Adrien Toffolet à Blois pour France Culture. De la rentrée politique déjà bien entamée à celle des élèves, ça sera lundi. Mais avant cela, quelques 850 000 professeurs ont retrouvé le chemin de l'école dès ce matin. Et à ce contexte d'incertitude gouvernementale et de pression budgétaire s'ajoutent les traditionnelles nouveautés de la rentrée, comme l'épreuve anticipée de mathématiques en classe de première cette année ou encore la réforme du diplôme national du brevet des collèges. Une rentrée donc quelque peu anxiogène pour les professeurs du collège REP Marcel Pagnol de Vernouillet dans l'heure où se sont rendus Hakim Kasmi et Martin Troidec.
Bienvenue au collège.
Merci.
Marcel Pagnol. Vous aviez déjà visité
Oui, j'étais déjà venue.
Dès leur arrivée, les enseignants sont accueillis par la principale du collège. Puis, une visite est organisée pour les jeunes professeurs de mathématiques, comme Chloé, qui arrive dans le collège pour sa première année en tant qu'enseignante titulaire.
Là, c'est vraiment pour découvrir physiquement l'établissement et puis tout ce qui va être mis en place à la rentrée, les projets aussi avec les nouveaux enseignants, découvrir ses collègues au niveau de la matière pour pouvoir commencer à travailler ensemble. Donc c'est important de tisser du lien tout de suite. On va dire mettre du concret dans tout ce qu'on a imaginé pendant les vacances scolaires, on va dire.
Alors, ça y est, tout le monde a trouvé une place, est installé.
Une fois la visite terminée, les enseignants se retrouvent en petits groupes pour préparer la mise en place des groupes de besoins en français et en mathématiques, en 6e et en 5e. Une mesure mise en place l'année dernière qu'apprécie Génan, professeur de français.
Alors, pour avoir déjà fait ce système-là, moi, je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir plusieurs enseignants pour un groupe d'élèves. Même pour eux, c'est très rassurant. Ils se sentent plus encadrés et on peut vraiment se partager les tâches, etc. Quand il y a une bonne cohésion d'équipe, c'est vraiment très, très efficace.
À la pause café, il est aussi beaucoup question de l'instabilité politique que traverse actuellement le pays, ce que regrette Nora, professeur d'histoire-géographie.
C'est fatigant et c'est usant. En histoire-géo, on a besoin de se remettre à jour tout le temps, de voir quelles ont été les nouvelles découvertes, les travaux de recherche. Et parfois, je trouve qu'on perd du temps par rapport à ça. On n'a pas le temps de se remettre à jour parce qu'il faut gérer des réformes, des choses à remodifier en continu.
Après une journée studieuse, les professeurs sont désormais prêts à accueillir leurs élèves dès lundi matin.
Hakim Kasmi est en visite au collège Jean Mermoz d'Angers. Eh bien, la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, a souhaité rassurer en affirmant qu'il y aura bien un professeur devant chaque classe lundi, tandis que 5000 à 6000 enseignants manqueraient à l'appel, d'après Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES FSU. À 3 jours donc de la rentrée des classes, de nouvelles violences sexuelles dans l'enseignement catholique sont révélées à Nantes, où le directeur diocésain de l'enseignement catholique de Loire-Atlantique a pris les devants cet après-midi et a annoncé lors d'une conférence de presse avoir recueilli plusieurs témoignages de violences sexuelles au sein du collège lycée Saint-Stanislas à Nantes. Une dizaine de victimes sont à ce jour recensées. Les faits seraient survenus entre les années 1950 et 1990. Les 5 prêtres mis en cause sont tous décédés. Une prison pour mineurs dans le viseur de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, celle de la Valentine, à Marseille, où une cinquantaine de garçons âgés de 13 à 18 ans purgent leur peine. Dominique Simoneau y a effectué une inspection inopinée début juillet, constatant des conditions d'incarcération indignes où les enfants sont laissés à l'abandon. Dominique Simoneau réclame aujourd'hui la fermeture de l'établissement.
c'est sale. Ces cellules couvertes d'excréments, parfois de sang, c'est pas nettoyé. Il y a des fourmis par cohorte monstrueuses. Ils n'ont pas à manger assez. Ils ont faim. C'est totalement dysfonctionnel. Il y a un taux d'absentéisme monstrueux chez les surveillants comme chez les éducateurs. Un week-end, il y avait 2 surveillants pour toute la structure. Ils ont été obligés de faire venir des troupes d'élite qui vont sur les interventions quand il y a des émeutes pour garder des gamins qui, par ailleurs, ne sortent pas de leurs cellules. On les laisse enfermés 23 heures sur 24 dans leurs cellules à ne rien faire. Et c'est lamentable de laisser des gosses dans des états pareils. En leur disant, toi, t'as fauté, t'as commis des délits, parfois même des crimes. Et on leur dit, regarde mon petit gars, tu vas réintégrer la République. Ben, la République, c'est ça. C'est ce bout de mousse gris foncé qui va te servir de matelas. Quand on est arrivé, il y avait 2 gosses, chacun dans une cellule, baraudée entièrement. Rien dans la cellule. Pas une chaise, pas une toilette, pas un lit, rien. Donc, ils sont debout ou assis. Il y en avait un qui était là depuis plusieurs heures. Je suis désolée du mot, qui avait pissé par terre. Ils sont enfermés là de façon illégale, totalement.
Dominique Simoneau, contrôleur général des lieux de privation de liberté, interrogé par nos confrères de France Info. En réponse, le ministère de la Justice dit avoir diligenté une inspection de l'établissement confié à l'Inspection générale de la Justice et précise que plusieurs mesures ont déjà été mises en œuvre, notamment certains travaux de rénovation. Il est désormais la 7e fortune française et cultive l'image du patron bienfaiteur. Mais qui est vraiment Xavier Niel? Bonsoir Maxime Tellier de la cellule
Investie. Bonjour.
De Radio France, vous avez enquêté en cette rentrée sur le tout-puissant patron de Free, Maxime, champion du pouvoir d'achat, sauveur du journal Le Monde, fondateur d'écoles gratuites. Mais derrière ce portrait flatteur, il y a aussi des zones d'ombre, notamment à ses débuts, quand il ne reculait devant presque rien pour faire fortune.
Oui, à la fin des années 80, Xavier Niel a tout juste 20 ans et fait déjà partie de la jeune génération d'entrepreneurs qui va gagner des millions dans le Minitel Rose. Mais lui ne se contente pas de lancer ses services. Il vole les clients de ses concurrents en s'infiltrant sur leur site. Louis Roncin, qui avait lancé 3615 Hula, la plus célèbre des messageries roses, s'en souvient parfaitement.
On voyait un pseudo intéressant, Virginie, 27 ans, seule ce soir, et elle disait à tout le monde... Viens sur 3615 XYZ, c'est beaucoup mieux, j'y suis en permanence, tu pourras me retrouver. Et puis on regarde sur le service, et c'était un service qui appartenait à Xavier Niel. Dans un premier temps, j'ai contacté Xavier Niel en disant « mais tu ne dois pas faire ça, parce qu'on ne doit pas pénétrer sur les services pour détourner la clientèle ». Bon, il a été très sympathique, ça s'est très bien passé, mais en fait, il n'a tenu aucun compte, il a continué. L'ensemble du piratage, on l'a évalué à plus d'un million de francs de l'époque.
Xavier Niel sera condamné, mais il ne s'arrête pas là et pirate cette fois France Télécom en volant les numéros de téléphone des Français pour lancer 3617 ANU, annuaire inversé par Minitel. Dans les années 90, il gagne aussi de l'argent en créant un logiciel qui force les Minitel de ses clients à rester connectés. Le commissaire qui avait enquêté se souvient encore de la perquisition. Il a tenu à rester anonyme et nous avons fait lire son propos.
C'était une ferme au milieu de la campagne, à Courtenay, dans le Loiret. On a trouvé quelques Minitel qui appartenaient à Xavier Niel. Ces Minitel pirataient les lignes des clients en les obligeant à rester connectés. À cette époque, les clients payaient en fonction de la durée de connexion et les Minitel restaient parfois connectés toute la nuit. La facture était astronomique. On l'a interpellé et placé en garde à vue. Et ses avocats ont expliqué que Xavier Niel n'était pas au courant.
Xavier Niel investit également dans les sex shops où l'argent liquide coule à flot. Emprisonné un mois, il sera condamné en 2006 pour recel d'abus de biens sociaux.
Merci beaucoup Maxime Tellier de la cellule d'investigation de Radio France. Xavier Niel, dans les coulisses de l'empire du milliardaire des télécoms, votre enquête est à retrouver sur notre site franceculture.fr. La ville de Gaza est désormais une zone de combat dangereuse. Dernière déclaration de l'armée israélienne qui annonce la fin de la trêve humanitaire dans la ville, accentuant donc un peu plus ces menaces d'offensive militaire d'envergure à Gaza, où vivent 1 million de Palestiniens. Thibault Lefebvre.
Selon des Palestiniens de la ville de Gaza contactés aujourd'hui, la situation humanitaire commençait à peine à s'améliorer, car depuis un mois, l'armée israélienne a arrêté de bombarder une partie de l'enclave entre 10h et 20h pour permettre aux habitants d'accéder à l'aide. La mesure reste valable à peu près partout, sauf depuis ce matin donc, dans la ville de Gaza. Ibrahim est tétanisé, il vit sous une tente et n'ose plus bouger.
Rendez-vous compte, un asthmatique comme moi qui doit parcourir 7 km pour aller à Zikim dans le nord pour trouver de la farine. Finalement, il n'y en a pas. Je suis malade. Il y a le risque de prendre une balle. La seule chose qui m'oblige désormais à me déplacer, c'est l'eau.
L'armée israélienne a émis en milieu de semaine des ordres d'évacuation pour le moment peu suivis parce que selon plusieurs habitants, il n'y a plus de place dans le sud et chaque nouveau déplacement coûte très cher, beaucoup trop en tout cas, pour une population à bout de force.
Thibault Lefèvre, cette spirale de violence doit cesser, répètent les ministres de 6 pays européens qui condamnent fermement ce soir la nouvelle offensive israélienne à Gaza. L'Islande, l'Irlande ou encore l'Espagne demandent instamment au gouvernement israélien de reconsidérer immédiatement sa décision. L'armée israélienne qui a par ailleurs annoncé avoir ramené les corps de 2 otages israéliens, 48 otages sont toujours aux mains du Hamas à ce jour. Réuni en conseil des ministres franco-allemands à Toulon, Emmanuel Macron et le chancelier Friedrich Merz parlent d'une même voix. Si la guerre en Ukraine pourrait encore durer de nombreux mois, préviennent-ils, eh bien Paris et Berlin continueront à faire pression pour que des sanctions supplémentaires soient imposées à la Russie. Car si le 18 août, Vladimir Poutine s'était engagé auprès de Donald Trump à rencontrer son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky a rappelé Emmanuel Macron, cet engagement ne s'est pas concrétisé.
Nous voulons espérer qu'une telle réunion bilatérale, à laquelle le président Poutine s'est engagé auprès du président Trump lorsque nous étions à Washington, c'est sa proposition. Si ça n'est pas tenu lundi, échéance qui avait été fixée par le président Trump, je crois qu'une fois encore, ça voudra dire que le président Poutine se sera joué du président Trump. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose pour nous tous. Et donc, ça ne peut pas rester sans réponse. Et donc, nous parlerons l'un et l'autre au président Trump dans le week-end. Nous verrons lundi ce qu'il en est. J'espère que cette réunion va se déclencher et se tiendra. J'espère que la réunion trilatérale se tiendra. Si nous devions constater la semaine prochaine qu'une fois encore, après des mois de promesses non tenues, ça n'était pas le cas, nous plaiderons très clairement pour que des sanctions primaires et secondaires soient prises qui contraignent davantage la Russie et la conduisent à revenir autour de la table des discussions.
Emmanuel Macron qui tiendra aux côtés de Friedrich Merz une nouvelle réunion de la coalition des volontaires la semaine prochaine. Ces 30 pays prêts à apporter des garanties de sécurité à Kiev. D'ici là, Paris et Berlin s'engagent à fournir davantage de défense anti-aérienne à l'Ukraine. L'Allemagne, bonne élève de l'Union européenne et première économie de la zone euro, qui traverse, comme en France, une zone de turbulence. En témoignent 2 chiffres dévoilés aujourd'hui. L'inflation qui repart à la hausse en août à 2,2% sur un an, quand le nombre de chômeurs dépasse lui les 3 millions sur le même mois, un chiffre jamais atteint depuis 2015, d'après les données publiées aujourd'hui par l'Agence pour l'emploi en Allemagne, qui alerte sur la nécessité de mener à bien des réformes, alors que le pays pourrait connaître en 2025 une troisième année de récession de suite. Nathalie Versieux.
Jamais en 10 ans, les chiffres n'avaient été aussi mauvais pour l'emploi. 3 millions de chômeurs, 6,4% de la population active. Mois après mois, la situation se dégrade sur le marché du travail depuis la fin de la pandémie. Un problème structurel lié au niveau élevé des salaires, à la baisse de la demande en Chine, à l'envolée du coût de l'énergie et aux inquiétudes des Allemands qui les poussent à épargner plutôt que consommer. La machine outils, l'automobile et le bâtiment sont particulièrement touchés. Le pays perd chaque année 100 000 emplois industriels, tout en souffrant d'une forte pénurie en salariés qualifiés dans l'éducation, la santé, l'énergie ou l'armement. De quoi alerter le nouveau chancelier qui a fait du retour à la croissance sa priorité. Friedrich Merz a promis des réformes pour l'automne et davantage de flexibilité sur le marché du travail.
La correspondance de Nathalie Versieux à Berlin pour France Culture. La météo de votre samedi qui sera mitigée. Les éclaircies présentes le matin sur le quart nord-ouest céderont la place à des averses l'après-midi. Des ondées présentes dès la matinée du Grand Est aux Alpes du Nord avant le retour du soleil. Soleil qui brillera lui toute la journée sur le pourtour méditerranéen. Les températures minimales affichent 11 à 16 degrés en général, de 16 à 19 sur le littoral atlantique et méditerranéen. Les maximales vont de 20 à 24 degrés sur la moitié nord en hausse au sud avec 22 à 27 degrés attendus. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun, Paul Guigues à la technique.